RFI 17h à Paris, 15h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Plusieurs opérations israéliennes en cours à Gaza, une quarantaine de morts au total dans le nord et le centre de l'enclave palestinienne. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. À la veille des commémorations des attaques du 7 octobre en Israël, les appels au cessez-le-feu se multiplient. Le pape François, le chancelier allemand, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vous l'entendrez. Des images insoutenables en Ukraine. Le procureur général ouvre une enquête sur une nouvelle exécution présumée de soldats ukrainiens fait prisonnier par l'armée russe. Améliorer la couverture médiatique des questions raciales en France, avoir plus de diversité dans les rédactions. L'association des journalistes racisés tenait son premier festival ce week-end à Marseille. À Gaza, au moins 26 morts dans des frappes israéliennes contre une mosquée et une école dans le centre de l'enclave palestinienne. 93 personnes ont également été blessées, Carlota Morteo.
La mosquée et l'école touchées se trouvent juste en face de l'entrée de l'hôpital Al-Aqsa, l'un des derniers établissements de santé à Gaza qui fonctionne encore. L'armée israélienne a affirmé avoir, je cite, « mené une frappe précise sur des terroristes du Hamas qui opéraient dans un centre de commandement dans une structure servant auparavant de mosquée ». Fin de citation. Aujourd'hui, l'armée israélienne a appelé à évacuer les habitants de deux camps voisins de Deir el-Bala, Nusayrat et Boureij, où en juin dernier, Israël avait mené des raids meurtriers pour libérer 8 otages prisonniers du Hamas. À Jabalia, dans le nord, des tanks israéliens ont traversé la frontière dans la nuit, puis une douzaine de bombes ont été lâchées sur Jabalia, faisant 17 morts, des frappes qui visaient des dépôts d'armes et des tunnels, selon Tsahal. Ce matin, la ville est encerclée et l'opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont confirmé que des combats étaient en cours ce dimanche matin à Jabalia.
Une précision signée Carlota Morteo. Et la défense civile de Gaza annonce 17 morts, dont 9 enfants, justement, à Jabalia. L'armée israélienne, de son côté, évoque des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. L'état d'alerte est déclenché dans le sud de l'État hébreu à la veille du premier anniversaire de l'attaque du Hamas. Le 7 octobre 2023, le groupe lançait une attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. 1200 personnes tuées, un anniversaire tragique qui marque le début de la guerre à Gaza. Près de 42 000 Palestiniens ont été tués en un an de guerre. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié un message vidéo pour rendre hommage aux victimes, mais aussi lancer une fois encore un appel en faveur de l'arrêt des combats.
Depuis le 7 octobre, une terrible vague de violence et d'effusion de sang a éclaté. La guerre qui a suivi la terrible attaque de l'année dernière continue de briser des vies et d'infliger de profondes souffrances aux Palestiniens de Gaza et, aujourd'hui, au peuple libanais. J'en ai parlé souvent et de manière très claire. L'heure est venue de libérer les otages, de faire taire les armes, de mettre fin aux souffrances qui engloutissent la région. L'heure est à la paix, au droit international et à la justice.
Et ce dimanche, le pape François a lui aussi demandé à nouveau un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient sur tous les fronts, y compris le front libanais. Le souverain pontife invite également la communauté internationale à faire en sorte qu'il soit mis fin à cette spirale de la vengeance. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi appelé un cessez-le-feu au Proche-Orient pour que la population civile de la bande de Gaza puisse être mieux protégée, mieux soignée, que les otages israéliens puissent être enfin libérés. Fin de citation. Au Liban, les frappes israéliennes se poursuivent également. Les autorités ont repoussé la rentrée scolaire au 4 novembre. 40% des élèves sont déplacés à cause des bombardements israéliens et les écoles ont été transformées en abris de fortune pour accueillir ceux qui ont dû quitter précipitamment leur logement. En Israël, une policière a été tuée aujourd'hui, 10 autres personnes blessées dans une attaque armée menée à Beersheba, dans le sud du pays. L'assaillant a été éliminé en quelques secondes par les forces de sécurité, indique la police. En Ukraine, le procureur général annonce avoir ouvert une nouvelle enquête au sujet de l'exécution présumée de soldats ukrainiens par l'armée russe. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois, mais l'Ukraine alerte sur l'augmentation de ses crimes de guerre russes contre ses soldats. Emmanuel Chaz.
Les images sont insoutenables. Elles montrent 16 soldats ukrainiens à terre ayant rendu leurs armes dans le secteur de Pokrovsk, dans la région est de Donetsk. Tous sont sommairement exécutés par des soldats russes. Selon Andriy Kostine, le procureur général d'Ukraine, il s'agirait de l'exécution de masse la plus importante commise par les Russes envers les soldats ukrainiens directement sur la ligne de front. Et ces faits correspondent à une volonté militaire et politique de la part de Moscou de torturer et de tuer au mépris des conventions de Genève régulièrement violées sur le territoire ukrainien. Une autre vidéo a fait le tour des médias et réseaux sociaux cette fin de semaine. Elle montre un soldat ukrainien en sous-vêtements dans un champ, lui aussi mis à mort par ses bourreaux. Ce genre d'exécution s'est multiplié cette année, suscitant l'indignation et le choc ici en Ukraine. Selon Kiev, au moins 93 soldats auraient été exécutés dans des conditions similaires. Plus de 50 enquêtes ont déjà été ouvertes pour déterminer les circonstances de ces meurtres et identifier les victimes ainsi que les coupables, afin de pouvoir traduire ces dernières en justice. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Élection présidentielle aujourd'hui en Tunisie. Dans un scrutin qui semble jouer d'avance, le président Kais Saied brigue un second mandat. Face à lui, Zoher Marzaoui, ancien professeur de mathématiques et ancien député pour de nombreux Tunisiens. C'est un candidat fictif qui sert d'alibi démocratique au président. Et puis il y a aussi Ayachi Zamel, homme d'affaires libéral, ancien député. Il est soutenu par une partie de l'opposition qui appelle à voter pour lui. En France, le premier festival de l'association des journalistes antiracistes et racisés a eu lieu ce week-end à Marseille. Le collectif œuvre pour un meilleur traitement des questions raciales dans les médias et pour plus de diversité dans les rédactions. Reportage de Justine Rodier.
On va commencer du coup.
C'est parti. Christelle Mouroula, coprésidente de l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, ouvre cette première édition où 250 personnes sont attendues.
Donc bienvenue à tout le monde.
Les 200 journalistes de l'AJAR œuvrent pour améliorer la couverture des questions raciales et demandent une meilleure représentativité de la population à l'heure où les rédactions sont encore très blanches.
Pour nous, il faut absolument qu'il y ait un regard critique sur les médias. Notre existence, elle est indispensable.
En un an, l'association a répertorié des dizaines de biais racistes dans le traitement médiatique en France. Khadija Zerouali est membre de l'AJAR.
Pourquoi on animalise toujours les sportives femmes noires? On dit la gazelle, on dit la panthère. C'est une manière d'animaliser les femmes noires qui est en soi racialisante et raciste. Donc voilà, dans tout le processus d'écriture, que tout le monde se questionne sur les mots qu'on utilise.
Pour tenter d'y remédier, l'agence France Presse ou Mediapart se sont notamment doté d'un poste de responsable éditorial aux questions raciales. Par ailleurs, l'AJAR propose des formations aux rédactions et écoles de journalisme. En tout cas, la première étape est de se questionner. Inès est journaliste à Libération.
C'est des billes qui sont dans toute la société française, donc il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas dans les rédactions.
Des tables rondes auront lieu sur divers sujets, tels que le traitement des banlieues, celui des Outre-mer ou encore l'anti-tsiganisme. Justine Rodier, Marseille, RFI.
Il était l'un des acteurs majeurs du marché de l'art au XXe siècle à Paris, Heinz Gerbrunn, grand marchand et collectionneur allemand juif exilé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fréquentait les plus grands artistes de son temps et le musée de l'Orangerie lui rend hommage aujourd'hui à travers une très belle exposition, Carmen Lenzmann.
Cela valait la peine de vivre au XXe siècle pour avoir rencontré Picasso, disait Heinz Bergrün, collectionneur d'art passionné et acheteur compulsif. Près de la moitié des 500 œuvres en sa possession sont signées du maître catalan. Au musée de l'Orangerie, Dora Maar aux ongles verts et un arlequin assis de la période rose font face au grand nu couché de 1942 qui traduit dans les couleurs sombres et des formes cubistes les horreurs de la guerre. Claire Bernadi, commissaire de l'exposition.
Heinz Bergrün, né en Allemagne en 1914, a traversé toute l'histoire lourde du XXe siècle. Il a fait des études de journalisme et commencé à écrire ses premiers papiers quand la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme s'est fait sentir. D'origine juive, il a très vite compris qu'il ne pouvait plus signer de son propre nom et a décidé de fuir l'Allemagne. Il avait travaillé au San Francisco Museum of Arts aux États-Unis et il est revenu en Europe avec l'armée américaine chargée de la dénazification de la presse. Il décide de rester en Europe, il s'installe à Paris.
C'est là qu'il découvre sa passion pour l'art et ouvre une galerie où il défend les papiers découpés de Matisse, les sculptures élancées de Giacometti et l'œuvre singulière et poétique de Paul Klee. Que leurs œuvres soient accrochées dans un espace public signifie pour Bergrün qu'elles respirent. Chose désormais faite à l'Orangerie de Paris.
Et cette exposition est à découvrir jusqu'en janvier 2025.